Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 20 janvier, l'Amérique tourne la page Trump dans ses tout premiers décrets. Juste après son investiture, Joe Biden va s'appliquer à défaire ce qu'a fait son prédécesseur. Nous irons à Washington, quasiment ville retranchée, deux semaines après l'attaque du Capitole, une ville que Donald Trump va quitter d'ici une heure et demie. Les stations de ski vont-elles pouvoir profiter pleinement des prochaines vacances? Premières indiscrétions RTL du Conseil de défense. La décision sera prise le 1er février. Olivier Véran, accusé de mensonge par la maire de Taverny, Florence Portelli affirme que c'est sa commune qui doit payer le matériel nécessaire à la vaccination. Elle sera l'invitée de ce journal. Dans RTL Midi aussi, le coup d'envoi des soldes en mode Covid. Les commerçants redoutent un résultat en mode mineur. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à Chabanais en Charente où les seniors ont eu droit à des étrennes aussi locales que confortables. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Ça décoiffe.
Et oui, on a trois départements qui sont en vigilance orange pour vent violent, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire, avec des rafales jusqu'à 120 km/h attendues. Ça souffle aussi très fort sur les crêtes pyrénéennes, mais également dans tout le pays. Des rafales entre 70 et 80 km/h sur les côtes comme à l'intérieur des terres. Côté ciel, c'est couvert et pluvieux sur le nord-ouest et le sud-est. Ailleurs, un temps sec mais bien nuageux à l'ouest et plus lumineux sur le nord-est. Et la Corse, le tout sous des températures très douces.
La question du jour sur RTL.fr. Donald Trump doit-il continuer la politique? Il y a 26% de oui, 66% de non, un tiers. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, que retiendrez-vous des 4 années de Donald Trump à la Maison Blanche? Ce sera l'une de nos questions. Il sera notre invité à 13h20, le docteur François Braun, président de SAMU Urgence France. Il s'inquiète d'une troisième vague fatale en mars. Là encore, vous nous direz votre avis. Cessez d'affoler, c'est le message de Jean Castex aux élus qui critiquent le manque de doses de vaccins. Vous nous raconterez sur le terrain comment ça se passe, la vaccination. Et puis lassés, démoralisés, précarisés, les étudiants sont appelés à descendre dans la rue aujourd'hui pour faire entendre leur voix. Là encore, on attend vos appels et on a entendu ce matin ce que disait Brigitte Macron, pleine d'empathie pour ses étudiants.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Dans 5h30, très exactement, Joe Biden prêtera serment, main droite levée, main gauche sur la Bible. Je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. C'est la tradition, mais tout est bouleversé. Washington placé sous haute surveillance, pas de public pour son investiture, ni même son prédécesseur. Et c'est une première depuis 1868. Nous retrouvons notre correspondant Lionel Gendron à Washington. Donald Trump, Lionel, prend l'avion pour sa résidence en Floride dans une heure et demie maintenant.
Oui, il va bientôt quitter Washington et mettre un terme à son mandat, même si officiellement ce mandat se termine dans un peu plus de 5 heures, à midi, heure de Washington. Jusque-là, il est encore le commandant en chef, il a les codes de la valise nucléaire, il a le droit d'utiliser Air Force One et Marine One. C'est d'ailleurs à bord de l'hélicoptère présidentiel qu'il va quitter la Maison Blanche direction la base d'Andrews en Virginie. Et là, il y aura une cérémonie d'adieu. Des invitations ont été lancées. Donald Trump aurait demandé les honneurs militaires, notamment un passage d'avion. Le Pentagone n'a pas donné son accord, mais il recevra les honneurs du à son rang. Direction ensuite la Floride et sa résidence de Mar-a-Lago. Donald Trump va s'y installer pour mener sa vie d'ancien président, une vie que l'on n'imagine pas en retrait des mondes politiques, médiatiques et judiciaires.
Quant à l'investiture, elle sera vraiment atypique, Lionel.
Oui, moins de 2000 invités, parfois il y en a plus d'un million. Une cérémonie sur les marches du Capitole devant lequel je me trouve, il est encore illuminé puisqu'il fait nuit, pas de parade cette année. Une cérémonie allégée, c'était prévu en raison de l'épidémie. L'attaque du Capitole a ajouté une dimension sécuritaire. La capitale est sous cloche, bunkerisée, plus de 25 000 gardes nationaux, la plupart des rues bloquées. L'ambiance est assez anxiogène, alors il restera les symboles essentiels comme la prestation de serment de Joe Biden, de Kamala Harris. L'hymne national sera bien chanté par Lady Gaga, les anciens président Bush, Clinton et Obama seront là. Mais pour les Américains, l'événement sera avant tout virtuel, à la télévision, la radio, sur Internet. Des symboles, mais pas de fête.
Lionel Gendron. Et ce qui est inédit, là aussi, c'est l'investiture pour la première fois d'une vice-présidente qui plus est noire. Sa mère est indienne, son père jamaïcain. Une femme pugnace et charismatique, inspirante pour beaucoup d'Américaines, comme Fiaka, que notre envoyé spécial Brice Dugénie a rencontré à Washington.
It's a great example for...
C'est un exemple pour les questions de diversité.
It inspires.
C'est inspirant, c'est le meilleur exemple de réussite et de ce qui est possible. Elle est clairement compétente pour ce rôle. Elle a une énergie incroyable et elle travaille dur, donc elle a toutes les qualités dont nous avons besoin. À son époque, Barack Obama incarnait un symbole d'espoir et de changement. Je pense que Kamala Harris porte cet espoir désormais, surtout pour les femmes et les femmes issues des minorités.
La tâche est immense pour Joe Biden qui doit réunifier un pays que Trump s'est appliqué à diviser. Dès aujourd'hui, les États-Unis vont revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Il va suspendre le décret migratoire visant certains pays musulmans et arrêter la construction du mur à la frontière avec le Mexique. L'Europe a un ami à la Maison-Blanche, dit ce matin la présidente de la Commission européenne qui espère construire un nouveau pacte fondateur pour les relations transatlantiques. Le variant anglais du virus continue de se répandre. Désormais, au moins 60 pays sont touchés, soit 10 de plus que la semaine dernière, jusqu'à la Chine. Le variant sud-africain est présent, lui, dans 23 pays. En France, le président de SAMU Urgence de France, François Braun, s'inquiète d'une troisième vague au mois de mars. Un nouveau conseil de défense s'est tenu ce matin. Et vous avez quelques indiscrétions RTL, Benjamin Sportouche. On est le 20 janvier, date à laquelle une décision doit être prise pour la réouverture ou pas des remontées mécaniques.
Eh bien, écoutez, Christelle, selon plusieurs sources gouvernementales, pas de réouverture des stations de ski au 1er février, hein, donc on est loin d'une réouverture des remontées mécaniques. Et pour les vacances de février, donc, qui commencent le 6 février et s'étalent sur 4 semaines, c'est très très improbable au vu des derniers chiffres de la pandémie. Ce qui est surtout craint par l'exécutif, ce n'est pas le ski en lui-même, mais les brassages de population en fin de journée après la fermeture des remontées mécaniques.
Bon, écoute des restaurants.
Eh bien, même triste scénario, pas de réouverture au 1er février, donc dans 10 jours. Et ce qui était sur la table ce midi au Conseil de défense, c'était de savoir si une nouvelle échéance était fixée. Vous savez, une clause de revoyure. Alors, selon une source gouvernementale, le printemps est envisagé, mais pas de date fixe. Mmh. En avril, par exemple, quand on peut le lire ici ou là, le printemps. Sachez aussi que Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a plaidé pour une catégorisation des établissements culturels, la réouverture des musées, des théâtres, par exemple, en fonction d'un seuil épidémique. Écoutez, c'est mal engagé. Pas du tout sûr que cette proposition soit retenue. Olivier Véran devrait nous en dire plus demain soir, le ministre de la Santé, qui pourrait être l'invité d'un journal télévisé en lieu et place de sa conférence de presse hebdomadaire.
Donc, tout dépend évidemment de l'évolution de la crise sanitaire.
Pas
merci Benjamin. Les étudiants veulent retourner à la fac et pas seulement par petits groupes. Mobilisation aujourd'hui à l'appel de l'UNEF et de l'UNL avec des manifestations dans toute la France. Ce matin, Brigitte Macron était l'invitée d'Alba Ventura sur RTL et elle a évoqué justement la reprise des cours.
C'est sur la table. C'est sur la table. Et je pense qu'il va y avoir une certaine reprise des cours assez rapidement dans des conditions sanitaires possibles. C'est ce que j'ai entendu.
C'est-à-dire que le président s'en occupe ?
Oui, le président est excessivement sensibilisé à cela.
Et qu'est-ce qui est sur la table précisément ?
Le fait que les étudiants sont isolés, sont en manque de moyens. Il y en a beaucoup qui avaient des petits jobs d'étudiants. Là, il n'y a plus de petits jobs d'étudiants. Donc, comment font-ils ? Il y a une extrême précarité. Il y en a qui arrêtent leurs études. Il y en a qui retournent chez les parents totalement désabusés. Il y en a qui passent leur temps sur des écrans. Il y en a qui ont pris une orientation et ils reviennent sur cette orientation. C'est extrêmement difficile et ça ne se dit peut-être pas, mais déboussolant pour eux.
La première dame qui était l'invitée d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Une pause et on en vient à la vaccination et à l'agacement des mères.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est toujours la course contre la montre pour la vaccination. En zone rurale, ce n'est pas si simple d'immuniser les plus de 75 ans, comme vous avez pu le constater du côté d'Aix-en-Provence, Étienne Baudu.
Les maires des 12 communes du pays d'Aix se sont réunis hier à Gardanne, où se trouve le centre de vaccination dont ces villages dépendent. Et ce sont les questions de transport qui posent de vraies difficultés. Certains habitants ne sont pas véhiculés, d'autres ne sont pas autonomes. Béatrice Bonfillon est la maire de Fuvaux, un village à une dizaine de kilomètres de Gardanne.
Certains sont très en colère, ils nous appellent, ils viennent nous voir, ils ne sont pas contents. Et c'est normal, ils ont raison. Donc c'est pour ça que nous sommes ici et on souhaitait demander des centres de vaccination de proximité. Mais proximité, ça veut dire dans nos villages. On a le personnel qu'il faut, on a les infirmières, les médecins qui se sont tous naturellement portés volontaires, même des médecins à la retraite. C'est tout à fait faisable. On est prêts.
Oui, mais voilà, l'Agence régionale de santé ne leur a même pas répondu et donc pas d'agrément. Monique a 75 ans, elle veut se faire vacciner, mais elle ne conduit plus.
Non mais Gardanne, il faut y aller à Gardanne. C'est assez loin quand même. Hein. Ou alors, faut je dérange ma fille. Ça, je ne veux pas déranger ma fille pour, en plein travail. On est toujours tributaire de quelqu'un. C'est à Fuvaux que je voudrais me faire vacciner. Je n'irai pas à Gardanne. Pour l'instant, ça ne m'encourage pas à me faire vacciner, je vous dis la vérité.
Et pour couronner le tout, le centre de vaccination de Gardanne, qui regroupe donc un bassin de population d'environ 100 000 habitants, a obtenu de l'ARS la possibilité de vacciner chaque jour 60 personnes.
Reportage Étienne Baudu. Beaucoup de maires s'indignent en ce moment justement de ne pas avoir assez de doses à disposition, de Chinon à Antibes en passant par Lille. Jean Castex leur a répondu assez sèchement hier à l'Assemblée nationale. Cessez d'affoler, a dit le Premier ministre. Bonjour Florence Portelli.
Bonjour.
Vous êtes la maire Les Républicains de Taverny dans le Val d'Oise et vous avez poussé un coup de gueule sur Twitter sur la vaccination. Vous accusez le ministre de la Santé Olivier Véran de mentir.
Oui, mais en fait, je lui réponds parce qu'il nous a, nous, accusé de mentir quelque part. Et jusque-là, j'étais bonne fille, hein, bonne exécutante. On est là pour être partenaire de l'État, pas adversaire. Et le ministre nous a traités avec beaucoup de mépris comme des adversaires. Il a aussi manqué de respect envers la présidente de région, Valérie Pécresse. Moi, je suis sa vice-présidente. Alors que franchement, sur le terrain, on fait tout pour aider l'État. On n'est pas contre l'État, on est avec l'État. Mais il ne faut pas qu'il nous traite comme des adversaires. On est des partenaires.
Bon, alors, il vous accuse de mentir sur le matériel qui est censé être mis à votre disposition. Lui dit, tous les maires, de toute façon, ont, à la fois, ils reçoivent les doses, évidemment, de vaccins, mais ils ont aussi tout le matériel dont ils ont besoin pour vacciner.
C'est faux. Alors, soit il ne connaît pas la réalité du terrain, ce qui est très inquiétant, soit il ment ouvertement pour des questions politiciennes, et je pense que c'est très regrettable, on n'a pas besoin de ça. Soit il est dans le déni. Je comprends que pour lui, ce soit compliqué. Moi, je ne leur jette pas la pierre, mais au moins qu'il n'aille pas inventer des choses qui sont fausses. Nous, on a un centre Covid à Taverny qui existe depuis le mois de mars. On a été vraiment les premiers. On a aussi eu l'accord de l'ARS pour ouvrir la partie vaccination. Et quand on a voulu ouvrir, il n'y avait pas les aiguilles, il n'y avait pas les seringues. Je peux vous dire combien ça m'a coûté la première semaine, 400 et quelques euros pour les seringues et les aiguilles. On a aussi payé des réfrigérateurs pour accueillir les doses de vaccins. Deux réfrigérateurs, 1335 euros. Des réfrigérateurs qui d'ailleurs sont reliés à une prise électrique, reliée à une alarme pour que si jamais il plante, un gardien puisse venir même la nuit pour ne pas perdre les vaccins. Donc plus les fluides, les frais de personnel administratif, les personnels de la mairie que je paye pour être derrière la ligne téléphonique pour rentrer des rendez-vous sur un planning Doctolib qui a été fixé avec les médecins. Donc ce n'est pas vrai. Alors, ça me gêne pas.
C'est normal que vous mettiez à disposition du personnel de la mairie, mais vous auriez dû, à partir du moment où vous avez un agrément de l'ARS, vous êtes censé recevoir les doses et le matériel, c'est ça ?
Bien sûr, alors on m'a dit, bah oui, mais c'est bien parce que du coup, comme vous payez ça, vous ne payez pas le transport des vaccins. Bah, manquerait plus que je paye en plus le transport des vaccins. Donc c'est pour vous dire qu'en tous les cas, il méconnaît la réalité. J'aurais préféré, par exemple, l'attitude de ma présidente de région qui propose 10 000 euros pour les villes qui se retrouvent en difficulté justement par rapport à ces coûts financiers. Donc c'est il faut mieux travailler ensemble. Il ne faut pas les raconter n'importe quoi. Il ne faut pas prendre non plus les maires pour des demeurés. La façon dont ils parlaient des maires était extrêmement méprisante. Je suis aussi vice-présidente de l'Association des maires de France. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de collègues qui sont choqués, quel que soit le bord politique. Ce ne sont pas des questions partisanes.
Vous, vous avez vacciné dès la semaine dernière. Il y a un gymnase que vous avez ouvert
Oui, c'est notre
centre
Covid
pour ça. Voilà. Vous avez vacciné dès la semaine dernière les soignants. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, vous avez dû fournir le matériel ou est-ce
Bien
que
sûr.
Vous l'aviez ?
Non, on ne l'avait pas. On a, dès le début, pris les aiguilles, les seringues, pas que d'ailleurs. Vous savez, par exemple, quand vous jetez des aiguilles usagées, c'est des matériels médicaux assez particuliers, il faut aussi des boîtes pour ça. On a payé aussi des compresses spéciales, des cotons spéciaux. Donc tout ça, c'est un investissement de la commune. Je ne suis pas... on ne me le fournit pas.
Bon, et comment ça s'organise en ce moment avec les plus âgés ?
On a une très bonne organisation, mais comme là, je ne jette pas la pierre au gouvernement, mais il n'y aura jamais assez de doses pour toutes les populations qui doivent être vaccinées.
Vous avez combien de doses là aujourd'hui ?
On vaccine à peu près 500 personnes par semaine. Ouais. Mais on ne fait pas que Taverny, hein. On prend toute une partie du département, on ne fait pas de sélection. Donc il y a une bonne organisation logistique, d'ailleurs merci les communes, merci les médecins, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'opposer à nous. Mais en revanche, et ça c'est pas la faute du gouvernement, on va manquer cruellement de vaccins parce qu'il y a un problème au niveau européen, au niveau de la production des laboratoires.
Merci beaucoup, merci Florence Portelli d'avoir été l'invitée de ce journal et vous dites donc à Olivier Véran et au gouvernement, travaillons ensemble.
Exactement.
Merci beaucoup. La guerre d'Algérie a un passé qui ne passe pas, il n'y aura ni repentance ni excuse, affirme l'Élysée ce matin, mais le palais envisage des actes symboliques pour œuvrer à la réconciliation. Le chef de l'État participera à 3 journées de commémoration dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. L'historien Benjamin Stora va rendre cet après-midi un rapport sur le sujet au président de la République. Il propose notamment la publication d'un répertoire des sépultures des disparus, aussi bien algériens qu'européens, ou encore un accès facilité aux archives pour les étudiants. Une pause avant de partir faire les soldes. RTL.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est parti pour 4 semaines de soldes. Les commerçants qui ont perdu environ 22% de chiffre d'affaires en moyenne l'an dernier comptent sur ce rendez-vous pour refaire leur trésorerie. Mais entre les files d'attente et le couvre-feu, l'épidémie peut en refroidir certains et c'est bien ce qu'ils redoutent. Reportage à Paris dans un magasin Mephisto d'Armel Lévy.
Bonjour madame, que puis-je pour vous ?
Je cherche une paire de bottines en 36 s'il vous plaît.
Émile n'en est pas à ses premiers soldes, il est chausseur depuis 3 générations. Mais il voit bien que ses clients n'ont pas le cœur à la fête.
Pas du tout, il n'y a pas d'ambiance d'achat actuellement. On voit les gens, ils sont pressés de rentrer chez eux, ils ne traînent pas. On ne flâne pas actuellement parce qu'avec le masque sur le visage, globalement cela crée une mauvaise ambiance.
Sylvie, une cliente, vient justement faire les soldes pour se changer les idées.
Oui, on est un peu morose, mais bon, justement ça fait du bien d'aller se faire plaisir un petit peu.
Mais Émile compte bien sur les soldes pour refaire sa trésorerie après une chute historique de chiffre d'affaires l'année dernière.
Avec 3 mois de fermeture, on a fini l'année globalement à moins 38% sur l'année précédente, ce qui est monumental. On ne peut pas dire qu'on n'ait jamais connu ça depuis un siècle, on va dire. Ça rappelle vraiment la crise de 1929, au point de vue économie en tout cas, chez nous.
Émile a moins vendu aussi entre les personnes âgées qui sortent moins et les salariés en télétravail.
Je pense que j'ai moins usé les baskets parce que j'ai moins marché. D'habitude, je vais au travail à pied.
Émile a déjà réduit ses commandes, mais quand il commande moins, cela entraîne directement une baisse de la fabrication dans l'usine Mephisto en Moselle.
Reportage Armel Lévy. Et nos habitudes de consommation ont changé depuis le premier confinement. On a plus investi dans le bricolage, la décoration que dans l'habillement. Les Français épargnent en attendant des jours meilleurs sans prendre de risques. Le livret A, malgré son taux d'intérêt à 0,5%, a attiré 2 fois plus d'épargne en 2020 qu'en 2019. Et si on y ajoute le livret de développement durable et solidaire, eh bien on arrive à une cagnotte de 35 milliards d'euros. Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
Ça représente 50 euros par mois et par livret. C'est un record depuis 2012, c'est énorme. C'est lié au fait que les Français n'ont pas pu consommer à cause des confinements, à cause des magasins fermés. Donc c'est une épargne qui est vraiment forcée, qui est contrainte. Et on constate d'ailleurs, les premiers chiffres de ce début d'année montrent que la consommation frémit. Oui. Dès que les magasins pourront rouvrir plus largement, ça repartira.
Éric Lombard ce matin sur RTL. Le coup de cœur de nos correspondants en région nous emmène aujourd'hui à Chabanais en Charente. Philippe Demaria, vous avez craqué pour les étrennes de la mairie, particulièrement originales et très confortables, destinées aux seniors de cette commune.
Oui, chaque année je vois passer des initiatives de certains maires qui se creusent la tête pour imaginer un cadeau, pas toujours facile surtout en ce moment, pas de repas de fin d'année pour cause de Covid. Mais là, le premier magistrat de Chabanais a eu la bonne idée utile, offrir à ses seniors une paire de charentaises, le fameux chausson doux, chaud et confortable et forcément made in Charente. Et je l'ai appelé dans sa mairie, Michel Boutan, le maire de Chabanais.
Toutes les personnes de plus de 75 ans vont recevoir une paire de charentaises. 250 paires en tout. 250 pieds droits et 250 pieds gauches. Les hommes ont des charentaises qui sont bleu marine et les femmes ont une paire de charentaises qui est gris clair. Chacune d'entre elles porte le blason de la commune, ce sont 2 léopards rouges sur fond or, en cousu retourné, qui est une technique très particulière à la charentaise, qui lui a valu de bénéficier de l'IGP il y a quelques années.
Et je tiens à saluer ici les adjoints de Chabanais qui ont relevé les centaines de pointures de leurs administrés pour que les charentaises soient à la bonne taille.
Voilà, je sais que c'est pour les seniors, mais enfin, si vous pouvez me mettre une paire de côté, je veux bien. Merci Philippe. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes maintenant. Pascal.
Sujet passionnant, la guerre d'Algérie. Il n'y aura ni excuse ni repentance. Et je me souviens des propos de François Mitterrand lorsqu'on lui demandait si la France devait s'excuser sur la période de Vichy. Et on sait que Jacques Chirac a pris une position différente de celle de François Mitterrand. Mais il avait dit qu'il n'y a pas de place pour les excuses parce que les excuses, c'est encourager la haine. Et la haine ne doit pas intervenir dans le débat public. C'était sa position. Donc sur la position de l'Algérie, c'est aussi intéressant. Ça va être intéressant aussi d'interroger les auditeurs, d'interroger peut-être des pieds noirs, hein, qui ont un certain âge aujourd'hui, ceux qui sont rentrés en 62, d'interroger parfois des enfants issus de l'immigration, d'interroger aussi des fils de pieds noirs. Donc c'est un débat, moi, qui me passionne depuis très longtemps, d'ailleurs. On pourra évidemment parler de Trump aussi en parallèle. On pourra parler de la troisième vague qu'on annonce fatale. Et là, je vois dans vos yeux...
Non, mais voilà, le pire n'est jamais sûr.
Le pire n'est jamais sûr. Voilà. Et puis les étudiants, c'était bien d'entendre Brigitte Macron ce matin, parce qu'il y avait de l'empathie dans ce qu'elle disait. Et je me disais, si tous les leaders politiques parfois parlaient différemment Parfois, ce n'est pas tant les décisions qui nous choquent, c'est la manière dont elles nous sont transmises. Et bien, il y avait de l'empathie chez Brigitte Macron, peut-être parce que c'est une voix féminine, mais en tout cas, c'était intéressant.
Elle n'est pas au pouvoir.
Et peut-être parce qu'elle n'est pas au pouvoir, peut-être.
A tout de suite. La météo, Peggy Broche. La tempête Christophe balaye les îles britanniques et elle déborde de l'autre côté de la Manche. Et
oui, c'est vrai que ça souffle fort sur l'ensemble du pays, Christelle, avec des rafales à 70 voire 80 km/h sur les côtes, comme à l'intérieur des terres et même jusqu'à 120 km/h dans la vallée du Rhône. On a d'ailleurs trois départements qui sont en vigilance orange. Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, ça souffle aussi très fort, mais sans vigilance sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 120 km/h. Maintenant, côté ciel, alors ça reste couvert et pluvieux entre la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Pareil dans le sud-est, entre le Languedoc et la région PACA, avec des pluies plus régulières sur les Cévennes. Ailleurs, c'est un temps globalement sec, mais bien couvert sur la moitié ouest, un peu plus lumineux sur le nord-est. Le tout sous une atmosphère encore très douce. On est souvent 3, voire 5 degrés au-dessus des normales. 7 prévus cet après-midi à Strasbourg, 11 à Lille, 12 à Paris, Brest, Tours, La Rochelle, Toulouse et Lyon. 15 degrés à Perpignan et à Marseille.
Bon, et c'est une météo en coup de vent aussi demain.
Oui, et demain et cette nuit, même avec des rafales entre 70 et 90 km/h sur la moitié nord cette nuit et demain en journée, jusqu'à 110 km/h sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais dans la nuit et sur la façade atlantique dans l'après-midi de demain. Côté ciel demain, alors presque tout le monde aura droit à son quart d'heure de pluie, voire bien plus, hein, le temps sera souvent pluvieux et nuageux. Alors sauf entre le nord et le centre le matin, ça restera sec mais ça ne va pas durer. Et puis un temps sec toute la journée en revanche, sous un ciel variable entre les Pyrénées et le golfe du Lion, mais bien couvert et pluvieux entre la Côte d'Azur et la Corse, tout ça sous des températures encore très douces, de 2 à 11 degrés le matin et de 8 à 16 l'après-midi.
Merci Peggy. Dans un instant, le rappel des titres, il va être 13h.
RTL. Dans quelques secondes, il sera 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Si vous étiez avec nous hier, vous avez sans doute entendu Eric, qui habite Montpellier, dont la maman habite Orléans et elle devait aller se faire vacciner à 50 km d'Orléans. Serge Grouard, le maire d'Orléans, a résolu le problème et nous sommes avec Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Pascal. C'est par rapport à ma maman et par rapport à l'intervention d'hier. Donc
exactement, on va faire le point dans une seconde. Votre maman a 90 ans, évidemment c'était compliqué qu'elle aille se faire vacciner à 50 km de chez elle. Le rappel des titres avec Christelle.
Les remontées mécaniques pourront-elles rouvrir pour les vacances d'hiver? Un conseil de défense a eu lieu ce matin. D'après nos informations RTL, pas de réouverture au 1er février et c'est très hypothétique pour les vacances. Le variant anglais du virus circule désormais dans 60 pays. Les premiers cas viennent d'être signalés à Pékin, en Chine. Joe Biden prêtera serment sur la Bible cet après-midi. Une cérémonie d'investiture vraiment inédite. Donald Trump sera déjà parti en Floride et les rues de Washington sont quadrillées par 25 000 soldats de la garde nationale et des milliers de policiers. Joe Biden va prendre 17 décrets dès aujourd'hui, notamment pour engager le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat ou au sein de l'Organisation mondiale de la santé. 4 semaines pour sauver leur saison. C'est le début des soldes d'hiver. Les commerçants avaient perdu près du quart de leur chiffre d'affaires l'an dernier et ils espèrent que le couvre-feu ne sera pas trop dissuasif.